Bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, à Radio Créum, les voix de l'éthique. Stratégique contre la mobilisation publique, parfois appelée aussi les SLAP, du nom de l'acronyme anglais qui veut dire Strategic Lawsuit Against Public Participation. Avant de passer à la discussion, je vais vous présenter le musicien qui nous accompagnera tout au long de cette émission, Robert Wyatt, un batteur et chanteur né le 28 janvier 1945 à Bristol, en Angleterre. Il est connu pour avoir joué dans Soft Machine dans les années 1960. Il a quitté Soft Machine pour faire une carrière solo dans les années 1970. En 1973, il a eu un accident assez grave, une chute de 4 étages, qui l'a laissé paralysé les 2 jambes. Robert Wyatt, je trouve, est tout à fait approprié pour cette émission du fait de son engagement politique et du fait aussi qu'il utilise sa voix en haut falsetto, ou on appelle parfois haute contre. Cette utilisation du « au contre » dénote une fragilité, une vulnérabilité qui s'assume comme telle et qui demande aussi à l'auditeur de l'entendre comme telle. Il y a un appel d'ouverture et une réception aussi qui doit prendre cette ouverture. Je trouve que c'est une bonne métaphore du sujet de notre émission, c'est-à-dire d'acteurs qui utilisent la parole qui prennent parole, qui prennent position pour critiquer, pour dénoncer, pour informer à propos de faits troublants, mais qui, de ce fait, s'exposent et se rendent vulnérables et sont parfois poursuivis par des corporations ou par des gouvernements qui, justement, cherchent à intimider, et cette intimidation est rendue possible par la vulnérabilité de la prise de parole. Donc, sans plus tarder, passons maintenant à Robert Wyatt et ensuite à notre discussion. La première pièce que nous entendrons est de l'album Old Rotten Hat de Robert Wyatt et s'intitule The Age Official.
Mind the second kind, this is the age of self.
Aujourd'hui, pour notre émission sur les poursuites Bayon, nous recevons Alain Deneau, auteur avec Delphine Abadi et William Sacher de Noir Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique, publié aux éditions Éco-Société. Pierre Neurot, qui, entre autres, est professeur au Centre de recherche en droit public, mais il est co-auteur avec Roderick McDonald et Daniel Jutras du rapport sur les poursuites Bayon, commandé par le ministère de la Justice et remis en mars 2007. Son rapport est disponible sur Internet. Vous n'avez qu'à taper dans Google « Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique » pour lire ce rapport. Nous recevons aussi Daniel Weinstock, directeur du CREUM, et qui est engagé dans l'espace public à maintes reprises pour discuter des questions d'éthique. Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal, et qui a intervenu publiquement en appui à Alain Deneau. Et Lucie Lemonde, professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM. Pour vous situer un peu dans un historique, en avril 2008, Barrick Gold met en demeure les éditions Éco-Société pour empêcher la publication du livre Noir Canada sous motif qu'il y aurait diffamation dans le livre envers Barrick Gold. En mai 2008, éditions Éco-Société décide de lancer le livre malgré les menaces. Et Barrick Gold, suite au lancement, met sa menace à exécution avec une poursuite de 6 millions de dollars, incluant 1 million en dommages et intérêts punitifs. Il y a une campagne de solidarité pour appuyer Barrick Gold à l'adresse slap.ecosociete.org. Pour appuyer les auteurs de Noir Canada et en savoir plus à propos de cette histoire. Sans plus tarder, passons maintenant à la discussion qui a eu lieu dans les locaux du CREUM le mardi 10 juin et vous remarquerez parfois avec des tonnerres et un orage en arrière-plan. Donc, je pense que peut-être qu'on pourrait commencer en se demandant peut-être le premier volet de la question. Pourquoi réglementer les SLAP? Quelles sont les raisons qui nous pousseraient à vouloir réglementer les SLAP? Est-ce que l'état du droit actuel permet de répondre à ces poursuites abusives et excessives? Ou est-ce qu'il faut donc produire des règlements pour empêcher... que des SLAP soient déposés.
Pour ce qui est du pourquoi, je pense qu'on peut... Pour ce qui est de l'état du droit, je laisserai peut-être aux experts en matière juridique le soin de répondre, mais pour ce qui est du pourquoi, je pense qu'il est clair qu'au moment où les grands textes sur la liberté d'expression ont été écrits, l'État qui se constituait pouvait être vu comme étant véritablement le principal obstacle à ce que la liberté d'expression puisse se vivre, puisse se réaliser. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le fait de protéger les gens contre les intrusions de l'État, quoique toujours important, est quelque chose, je dirais pas de trivial, mais quand on voit le poids qu'ont les corporations, le poids économique qu'ont les corporations, pour qui dépenser quelques centaines de milliers, voire des millions de dollars pour protéger leurs intérêts représente une bagatelle, donc en menant ces poursuites Bayon, il y a dans la lignée, dans la foulée de la logique qui nous a mené à avoir des très fortes protections pour la liberté d'expression, il y a, je crois, une nécessité pour protéger ce même droit, pour protéger cette même liberté, de réglementer un peu et de poser un cadre, à tout le moins, à ce genre de pratique.
Ben, je dirais, au-delà de l'évidence, là, qui consiste à dire qu'un gouvernement ne peut pas accepter que soit perverti son appareil judiciaire par des gens qui s'en servent comme une arme, qu'on se rend compte, nous, dans le domaine de la recherche, là, nous qui avons écrit Noir Canada, à quel point, au moment où nous avons commencé nos travaux, ceux qui déjà s'intéressaient à ces questions-là faisaient preuve d'une prudence, pour ne pas dire d'une soumission, dans le choix de leurs termes, dans leur lexique, dans leur méthodologie même, qui devenait stérile du point de vue de la recherche. C'est-à-dire que nous, on s'est intéressé donc au rôle des sociétés canadiennes en Afrique, par rapport à des cas d'abus qui étaient rapportés par des sources sérieuses. Là, on parle de rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, on parle de dépositions qui sont faites au Congrès à Washington, on parle de rapports prudents, sensés, sérieux, méthodologiquement impeccables, de Human Rights Watch, Amnesty International, Paul Institute, ainsi de suite. On parle de livres d'experts, d'articles de journalistes qui sont sur place et qui sont réputés, Colette Brackman, Dominique Danton. On a fouillé énormément de sources pour se rendre compte qu'il y avait lieu de nommer des sociétés qui, d'après ces travaux-là, commettaient des abus, comme on dit là déjà dans une terminologie prudente, en matière environnementale, sociale, politique. En clair, on parle de produits chimiques qui sont déversés par négligence dans les seuls points d'eau potable, on parle de collusion avec des seigneurs de guerre, on parle de corruption, on parle de trafic d'armes. Et donc, on s'est rendu compte que tout ça était fouillé, mentionné, évoqué par des chercheurs universitaires, financés par le CRSH, l'ACDI, ainsi de suite, ou par des responsables d'organisations non gouvernementales tout à fait prudentes, on devrait dire pusillanimes, en certains cas, qui adoptaient pour ce faire le jargon de la Banque mondiale, le jargon qui est développé par les sémanticiens de la Banque mondiale depuis les années 60. Je pense par exemple à toute cette quincaillerie de concepts qui tourne autour de la gouvernance. Et donc on avait des gens qui, depuis 15-20 ans, analysaient le rôle du Canada en Afrique, mais en parlant d'une mauvaise gouvernance, puis de bavures, puis de mesures incitatives qu'il faudrait inscrire dans le domaine de la loi pour encourager les sociétés à l'extérieur des frontières canadiennes à mieux respecter un certain nombre de normes, ainsi de suite. Et on était continuellement dans un discours flottant qui ne permettait pas aux citoyens de comprendre ce qu'il en était. Et nous, ça nous apparaissait tout à fait important d'inscrire dans le domaine public un certain nombre de références déjà accessibles sur Internet, ainsi de suite, pour qu'on puisse savoir donc quel rôle nous, on a à jouer, ces citoyens-là ont à jouer. Du point de vue de la citoyenneté politique, mais aussi du point de vue des épargnants que nous sommes, quoi, parce que la plupart, notre épargne se trouve à être financer ces sociétés-là par l'entremise de la Bourse de Toronto.
Donc, si je comprends bien, il faut pouvoir réglementer les SLAP pour permettre l'expression, en tout cas permettre que de telles informations soient diffusées.
Oui, c'est ça. Pour marquer mon point rapidement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs ou de membres de la société civile active dans des ONG là, qui sont censés être représentatifs d'un pan entier de la société, là, qui se censurent du fait d'intérioriser la possibilité des SLAP. Et très souvent, quand on ose nommer un chat un chat à partir de sources sérieuses, méthodologiquement en étant quand même armé, là, on se fait regarder par ces interlocuteurs-là comme si on était téméraire et qu'on n'avait pas compris qu'à tout moment, un procès peut nous échoir parce qu'on a osé faire de la recherche, faut qu'on fasse notre travail.
Merci à vous. Pierre Neveu.
Oui, bien, le cas de Noir Canada est intéressant parce qu'il pose toutes sortes de difficultés, entre autres parce qu'il met en évidence, entre autres, la fonction publique de l'intellectuel et de risque que court ou que risque de couvrir les intellectuels qui prennent position publiquement. De ce point de vue-là, même si souvent on se plaint du silence des intellectuels, on se retrouve dans une situation qui met en jeu des intellectuels dans un contexte où on tend à les empêcher de prendre la parole. Dans ce sens-là, c'est un cas tout à fait particulier. Je pense qu'il est tout à fait intéressant, exemplaire d'un problème qui va peut-être se poser de plus en plus au monde de la recherche. There is a kind of compromise you are master of. Your endless gentle nudging left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are enemies.
what we had in common makes it even worse. You're proud of being middle class, meaning upper class. You say you're self-sufficient, but you don't dig your own coal.
Slap eux-mêmes, en fait, il y a plusieurs enjeux liés. Il y a celui de la liberté d'expression, qui est un élément important dans des démocraties délibératives, parce qu'en fait, la délibération, c'est la possibilité d'échanger avec d'autres de ce qui est acceptable, pas acceptable, mieux, plus utile ou moins utile, indépendamment de sur quoi on veut faire porter le débat démocratique. Il faut pouvoir avoir la garantie d'un certain nombre de droits, et Mme Lemonde pourra en parler mieux que moi, dont la liberté d'expression, parce que c'est la condition juridique d'une certaine condition démocratique, ou en tout cas d'un certain idéal démocratique. Ça, c'est la première raison, c'est celle qui est le plus souvent évoquée. Aux États-Unis, elle s'exprime clairement sous l'idée du droit à la délibération, ou à la participation à la délibération public, parce que c'est relié au premier amendement de la Constitution américaine. Et donc, ça prend une place particulièrement importante. Mais ce n'est pas la seule question en jeu. La deuxième question qui est en jeu, c'est celle de l'accès à la justice en tant que tel. Il y a un support juridique à ça. Le droit à un procès juste et équitable, ça nécessite aussi la possibilité pour les parties de faire valoir leur point de vue à la Cour. Et si les moyens entre les parties sont tellement inéquitable et qu'une des deux n'y parvient pas, bon, on n'est pas très certain que ce droit-là est conservé, mais de façon plus large, c'est ce problème qu'on dit d'accès à la justice qui prend toutes sortes de formes et dont le SLAP devient un des exemples importants, je dirais, actuellement dans l'espace public. Et le troisième élément, c'est celui sur lequel d'ailleurs le rapport a le plus travaillé, parce que ça semblait être la façon la plus certaine de s'assurer que des suites soient données au rapport sur le SLAP qui a été déposé au ministère de la Justice, c'est la question du détournement de l'institution judiciaire, c'est-à-dire de l'utilisation, de l'exploitation de l'institution judiciaire pour d'autres finalités que celles pour lesquelles elle a été instituée. Et derrière, évidemment, se pose la question de la responsabilité des juges vis-à-vis de leur institution, de droits qu'ils doivent se reconnaître éventuellement ou des moyens qu'on doit leur donner si c'est nécessaire pour intervenir et éviter telle chose que ce détournement de l'institution judiciaire en faveur d'une partie engagée dans un débat public qui, dans le fond, n'a pas en tant que tel de connotation juridique non plus que judiciaire a priori, mais devient une question d'ordre juridique parce qu'on le retraduit dans les termes qui peut faire que la Cour s'en saisit. Et je pense que là, il y a une obligation, une responsabilité de l'institution judiciaire de protéger son activité. Ça ne signifie pas que l'institution judiciaire n'est pas un lieu de délibération publique, ça en est souvent un, et d'ailleurs, l'évolution de l'interprétation donnée à la Charte a révélé l'importance du tribunal
utilisé par des groupes environnementaux.
Oui, et dans ce sens-là, le SLAP, c'est vrai que c'est un peu la réponse systémique donnée à l'entreprise au recours, dans certains cas, que des groupes ont fait de l'institution judiciaire pour faire valoir leurs droits ou du moins de faire valoir leur point de vue, entre autres en matière environnementale. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ça s'est joué historiquement des deux côtés, bizarrement. Et la question, c'est vrai, le fait de savoir quand est-ce que l'institution judiciaire doit considérer qu'on est en train de détourner sa fonctionnalité pour d'autres fins.
Peut-être, je peux rajouter un peu là-dessus. Oui, je pense que quand Pierre Leroux a parlé de liberté d'expression, c'est sûr que c'est ça qui est en jeu principalement. Mais la liberté d'expression, c'est aussi le droit d'être informé, donc le droit d'avoir accès à ces connaissances-là, dont par exemple le SCOFON ou la compagnie minière canadienne en Afrique, des choses comme ça, pour pouvoir se forger une opinion critique et participer de façon intelligente au débat public. Donc, en ce sens-là, un SLAP, c'est un déficit démocratique important, oui. Parce que ça touche l'ensemble de la société et non pas seulement ceux qui passent.
C'est qu'un enjeu public devient privé puisque là,
oui, et on n'a plus accès à ces connaissances-là, ouais. Aux dénonciations de groupes écologistes ou autres. Ouais. Alors ça, je pense que, et dans ce sens-là, même si on n'a pas eu des cas comme il y a eu aux États-Unis, aussi nombreux, je veux dire, la situation se détériore et de jour en jour, parce qu'on s'intéresse au sujet, les gens nous écrivent et on en voit, ça prolifère au Québec. Et je pense qu'une intervention législative est essentielle. Il y a eu une commission parlementaire à laquelle j'ai participé pour la Ligue des droits et libertés et sur 37 groupes qui ont passé en commission parlementaire, 36 ont demandé une intervention législative, la seule exception étant le barreau du Québec. Je ne m'étendrai pas sur les raisons du barreau, mais cela dit, et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être discuter avec le professeur Noroux, dans un sens, on n'était pas complètement d'accord avec les conclusions de du rapport qu'ils ont remis au ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a quelques solutions sur la table, ou amender le code de procédure civile, donc le droit actuel qui prévoit qu'on peut faire rejeter une action si on la juge frivole, déraisonnable, de mauvaise foi. Or, l'analyse de la jurisprudence est en effet que très rarement les juges vont rejeter à la première étape une action comme ça. De la minute qu'il y a une apparence de droit quelconque, on va aller au fond, donc c'est des années, puis tout ça. Et l'épée de Damoclès demeure sur la tête. Alors, amender simplement le code de procédure en modifiant un peu cet article-là, en disant, oui, c'est vexatoire, dilatoire, etc., pour la Ligue et d'autres groupes, on ne pensait pas que c'était suffisant. On pensait que ça prenait véritablement une loi anti-SLAPP, qui anti-poursuite Barillon, là, pour réaffirmer le droit des citoyens à participer au débat public, pour montrer que si on a une telle loi, donc dissuader les instigateurs de SLAPP, peut-être éventuellement, aussi s'inspirer des lois californiennes ou australiennes à l'effet qu'il y ait une procédure accélérée d'urgence. Donc, dans les 30 jours où on reçoit une mise en demeure ou une action comme ça, on se présente devant un juge qui déclare « oui, je suis en présence d'un SLAPP ou d'une poursuite Barillon ». Donc, renversement du fardeau de la preuve sur l'autre, sur la compagnie qui aura à démontrer que ce n'est pas parce que monsieur a exercé sa liberté d'expression où ça doit participer au débat public, qui fait l'objet d'une telle poursuite, qui a aussi des provisions pour frais, possibilités, le rapport McDonald et Noroux proposent, par exemple, qu'il y ait un fonds d'aide qui soit administré, par exemple, par le fonds d'aide au recours collectif, des choses comme ça, où on puisse avoir de l'argent pour se battre dès la procédure d'urgence initiale pour faire renverser la chose. Alors moi, je pense qu'il est très important qu'on ait une loi avec des dents qui puisse régler les affaires rapidement, pour que les gens ne soient pas pris avec ça et aient peur de parler, et que les citoyens en général, qui entendent parler de ça, aient peur de se remêler de la vie de leur quartier, de prendre part à différentes situations dans leur environnement. Your endless gentle nudging left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are enemies.
Donc, nous voilà déjà dans le comment. Est-ce que Christian Nadeau...
Juste le point premier qui va dans le sens de celui qui vient d'être dit. Moi aussi, je serais tout à fait en faveur d'une loi. Évidemment, il y a toujours le problème de, ensuite, qu'est-ce que ça implique comme coût juridique. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'on laisse tomber le principe de la diffamation? Donc là, il y a ce genre de questions-là qui doivent se poser du point de vue du droit. Mais aussi, ce qu'on doit se poser comme société, si le droit n'est pas trop omniprésent dans nos sociétés, puis par exemple, des mécanismes de juridiques de protection des réputations vont être tellement, des mécanismes techniques tellement difficiles à contrôler que cela se fait au détriment des droits et libertés. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que sous prétexte de protéger les individus, en fait, on leur enlève des moyens de se défendre. Ça, c'est le premier point. L'autre problème, et c'est la suite du précédent, c'est que le débat se déplace, puisqu'il n'y a pas une telle loi, le débat se déplace très régulièrement d'un débat politique à un débat juridique. Tant et si bien que l'information va se faire plutôt sur les formes du débat plutôt que sur le contenu du débat en tant que tel. Par exemple, là ici, si nous étions dans une situation idéale, alors nous serions en train de discuter des thèses du livre, par exemple, des thèses du livre Nord-Canada, mais non pas de discuter sur les formes par lesquelles pourrait être acceptable la diffusion de telle thèse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement problématique, et il me semble qu'une loi en ce sens-là est absolument nécessaire. Je doute que nous ayons une telle loi avant la fin de la session parlementaire, mais disons qu'ils ont d'autres choses à faire, visiblement, c'est rien. et la raison pour laquelle j'en doute, c'est que on n'a pas vu beaucoup de signes de la part du gouvernement en ce moment qu'ils étaient tentés par de telles procédures, sinon quelques vagues, disons, appels du pied qui ensemble, ils ont une certaine réception chez le ministre. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment vu, disons, qu'ils aient accusé réception du message que la société leur envoyait dans cet égard.
Et pourtant, il y a une unanimité quand même à l'Assemblée, parmi tous les partis, pour qu'il y ait une loi en ce sens, ou en tout cas qu'il y ait une action qui soit en ce sens.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les débats, par contre, ça n'apparaît jamais. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de questions qui ont été posées régulièrement dans le cadre des travaux pour ramener ce problème à l'ordre du jour. Ouais.
Sur le fait que pour les compagnies, ça ne coûte rien de lancer une affaire comme ça, une poursuite et tout ça. J'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Drick McDonald récemment, qui disait que depuis le rapport, finalement, ça fait quasiment 2 ans que vous l'avez déposé, même si ça a été rendu un an plus tard, ouais, qu'aux États-Unis, c'était en baisse le phénomène des slaps, parce que plusieurs États ont adopté des lois, mais aussi, selon son analyse, parce que les compagnies s'apercevaient que ça se faisait à leur détriment, soit que leur, il y avait l'air plus fou d'agir comme ça et d'écraser, d'avoir l'air d'écraser le monde, que donc c'était en baisse, c'est en montée ici, mais c'est en baisse aux États-Unis, donc finalement, oui. Et sur l'affaire de la diffamation, c'est sûr que quand on parle de ça, on parle de d'équilibre entre des droits, hein, la liberté d'expression, puis t'as le droit de ne pas, qu'on ne porte pas atteinte à ta réputation. Mm-hmm. Maintenant, quand on parle d'une compagnie, ça m'apparaît assez différent. Ce n'est pas du tout la même chose que d'atteindre la réputation de M. X, là. Je pense que... Et dans les droits en jeu, quand on fait la balance entre les droits, je pense que la liberté d'expression des citoyens l'emportera toujours sur la réputation d'une grosse compagnie. Ça, c'est mon opinion.
D'ailleurs, en droit, normalement, on tient compte du fait qu'une personnalité politique ou une compagnie doit s'attendre à ce qu'on fasse une critique de ses faits et gestes de manière beaucoup plus large que d'un individu.
Mais la difficulté du code du SLAP, c'est que si ce n'était que des questions d'atteinte à la réputation, ce serait plus simple. Et en Australie, on l'a réglé de cette façon. Ils ont considéré que puisque la plupart des SLAP mettent en cause une société commerciale qui défend supposément sa réputation contre les critiques qui sont faites par des groupes de citoyens, que finalement, il s'agit tout simplement de modifier la législation et de dire, bon, à quoi sert la protection de la réputation? Elle sert essentiellement à protéger la réputation des personnalités, des individus. Ça n'a pas été établi au départ pour protéger la réputation des sociétés commerciales. Donc, au fond, il s'agit simplement de ne plus protéger la réputation des sociétés commerciales.
Qu'on dit, dans le fil droit de poursuivre.
C'est ça. Et donc, évidemment, c'est une des façons de le régler. Mais la vérité, c'est qu'il y a des SLAP qui sont poursuivis en vertu des législations concernant la concurrence déloyale, d'autres recours tout simplement à l'injonction parce qu'il y a un risque appréhendé que telle ou telle situation crée un dommage contre lequel on ne pourrait pas revenir par la suite. Donc, sur le plan juridique, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'empêcher un groupe de continuer à déclarer ou à se plaindre ou à condamner un projet de développement ou un autre. Et donc, c'était difficile d'intervenir. Ça aurait pu être une solution. Mais finalement, on a décidé d'y aller sur le plan procédural parce qu'il ne connotait pas à l'avance les types de causes que ça met en cause, justement, les types de motifs pour lesquels les sociétés commerciales poursuivaient. Dans le cas particulièrement de Noir Canada, je trouve que c'est important ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que à un moment donné, le SLAP peut avoir un effet contre-productif et c'est particulièrement le cas dans ce cas-ci. C'est qu'au fond, Barry Gold, ils ont l'air de quoi là-dedans? Ils arrivent à un très mauvais moment, ils ont été très mal conseillés dans ce dossier-là parce que la question du SLAP, c'était déjà une procédure condamnée publiquement par le ministre. Alors, il y a donc quelqu'un quelque part, je pense qu'il devait être soutenu par un contentieux qui n'est pas québécois parce qu'ils auraient su que dans l'opinion publique, ça serait très, très, très mal porté. Et puis, pour Éco-Société, et puis pour Alain Deneau, et puis les collègues qui ont contribué à cet ouvrage-là, je trouve que ça finit par avoir aussi l'effet contraire, c'est que ce livre aurait pu passer complètement inaperçu, comme beaucoup de ces ouvrages courageux, mais finalement, bénéficier d'une visibilité inespérée. Oui. Et je dirais qu'il y a une leçon là, qui va peut-être d'ailleurs faciliter éventuellement le retrait de Barry Gold de cette entreprise. Du moins, il doit y avoir maintenant quelqu'un quelque part qui réfléchit à la nécessité de se retirer du mauvais pas qu'ils ont fait, et il y aurait quelque chose qui va se jouer là. Et comme d'ailleurs, c'est souvent le cas, comme l'expliquait Lucie Lemond, beaucoup de ces procédures qui sont abusives se concluent par des ententes hors cours. Dans certains cas, elles sont problématiques parce qu'elles conduisent à faire que des gens qui ont quelque chose à dire ne pourront plus le dire, et c'est ça qui est problématique. Mais ça prouve en même temps jusqu'à quel point il y a un vide juridique derrière, c'est qu'il n'y a pas de droit généralement à défendre dans ces causes-là. La réputation de Barry Gold, finalement, n'est peut-être pas si menacée qu'elle le dit en vérité, et que peut-être qu'un tribunal finalement considérait que les dommages qui lui sont créés sont tellement mineurs que ça ne justifie pas une action de cette nature-là. C'est pour ça que souvent, on le voit, c'est dans le règlement hors cours que la preuve est faite, que la procédure utilisée est essentiellement dilatoire. Sinon, il poursuivrait jusqu'à la fin. Et comme j'ai dit quelque part, je pense que demander 6 millions de dollars dans ce cas-ci, c'est extrêmement important, vu que ce n'est pas si facile d'établir, avant même qu'un livre sorte, quel va être l'état des dommages qu'on va éventuellement subir par le fait de la publication du rapport. Hein? Donc déjà, il y a quelque chose d'un petit peu louche là-dedans. En même temps, écoutez, la réputation de Barry Gold vaut beaucoup plus que 6 millions de dollars, parce que je veux dire, ça prouve bien directement que c'est quelque chose de dilatoire de leur part à eux. Mais cela étant, il y a une erreur chez Barry Gold d'avoir demandé, avant même que les dommages soient causés, des paiements pour le remboursement de ces dommages qui n'étaient pas faits. Et ça prouve en fait là, que c'est stratégique aussi. Si on veut c'est avoir une démonstration de ça, on l'a dans ce film.
I was making of a simple
fait, ce qu'on peut constater et qui est préoccupant, c'est de voir que personne à l'université actuellement, en tout cas jusqu'à date récente, là, parlait de censure. J'ai rarement vu, moi, un professeur se dire censuré au Québec. Tout le monde plaide pour la liberté, enfin, la liberté d'expression, là, cela reconnaît à louer, bon, ainsi de suite. Mais en même temps, comme le disait Christian Nadeau, dès qu'on touche à certaines choses, on se rend compte que d'aucuns ont intériorisé le réflexe qui consiste à dire qu'on ne veut pas se faire poursuivre. En fait, c'est comme c'est ce que Paul Venn, l'historien, appelait les programmes de vérité. Là. C'est-à-dire qu'on est libre tant qu'on agit sur un certain registre, mais on sait que si on change de registre, on ne l'est pas du tout. Alors on sait bien se confiner sur celui où on peut se dire libre et avoir bonne conscience. Mais on sait très bien que lorsque des concepts sont financés par l'ACDI ou la Banque mondiale et que le CNRSH les reprend, que tout d'un coup on est plus libre parce qu'on est tenu d'obtenir des subventions qui, en quelque sorte, comprennent un cahier des charges sémantiques. Et donc déjà, il y a lieu de réfléchir à ça et on peut voir au bout du compte, je veux dire, la menace judiciaire se profiler si on n'a pas compris au début. Quoi. Donc on voit très bien qu'il
y a... Ou le propre des collègues. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de poursuite, ce sera le refus d'une subvention.
Effectivement, il y a des points, disons, je dirais, liés à l'économie de la recherche au sens de... bêtement financier, ensuite un problème sociologique lié à la vie professionnelle, et ensuite judiciaire. Alors ça serait vraiment pour les gens têtus. Donc, il y a ça d'une part. Et je dirais que avant même d'aborder, je trouve la question intéressante de Daniel Weinstock, avant même d'aborder le problème de savoir quelle est l'espèce de dialectique qu'il faut établir entre la liberté d'expression et le droit à la réputation, là, avant même de se poser cette question, il faut se demander à partir de quand ces enjeux-là sont d'ordre juridique. Et aujourd'hui, je suis surpris d'observer la nature, la crise qui touche l'acte discursif comme tel. Comme si parler publiquement suffisait plus. Et c'est ce que d'aucuns reprochent aujourd'hui à Barry Gold quand ils prennent notre défense. C'est de dire, écoutez, on ne vous demande pas d'être d'accord. On ne vous demande même pas de considérer que c'est vrai. Nous-mêmes, on lit ces données qui nous sont soumises. Et qui sont argumentés pour qu'on puisse ou non y adhérer. Donc nous-mêmes, on est à étudier tout ça. Laissez-nous, s'il vous plaît, le faire en paix. Et si vous avez des pièces à apporter à vos dossiers, faites-le. Je veux dire, et c'est ce qu'ont dit les universitaires qui nous ont soutenus, et c'est ce qu'ont dit des gens comme les éditeurs de Septentrion, qui ont offert à Barigo de publier leur prochain livre, s'ils voulaient nous donner la réplique, simplement pour dire, ben voilà, ça se passe... sur ce registre-là, puisque ce que nous avons avancé, nous, ce ne sont pas des affirmations, ce ne sont pas des condamnations, ce sont des thèses. Et par définition, une thèse se dispute, se réfute, et fait partie du processus qui tend à la vérité. Donc on commence pas en disant « you knew or should have known », comme c'est écrit dans la requête qui nous a été envoyée, mais on arrive à la question du savoir, par l'intermédiaire de cette démarche, de ce processus qui consiste à s'enquérir des sources. Sinon, si c'est plus possible, aussi bien fermer toutes les universités du Canada. I can't forsake you.
Excellente réplique. Et en tout cas, tout à fait dans le sens de ce qu'on avait proposé, nous, au moment où on avait publié la lettre.
D'ailleurs, on pourrait le Créum inviter Barry Gold.
L'invitation est faite.
L'invitation est faite à Barry Gold.
Pour autant qu'ils écoutent Radio Créum.
Alors, s'ils ne répondent pas, on va croire qu'ils n'écoutent pas et on va essayer de diffuser mieux notre émission.
La question de la diffusion est intéressante. Je retiens ce que Christian a dit. Bon, c'est ce qui sort des dernières réactions, c'est-à-dire qu'il y a des discussions qui doivent avoir lieu dans, la, dans l'espace public qui n'ont pas lieu. Je retiens également quelque chose que Pierre Noreau a dit tout à l'heure, qui est en fait l'énorme bêtise stratégique de Barry Gold d'avoir agi de la sorte. Bon, Éco-Société est une petite maison d'édition qui n'a pas un pouvoir de diffusion énorme. Bon, ce ne sont pas les best-sellers de Stephen King ou de, même de Victor Lévy-Beaulieu. Et donc, la meilleure stratégie du point de vue de quelqu'un qui aurait tout simplement voulu noyer le poisson dans le... Oui, c'est tout simplement de laisser faire. Hein, de laisser faire. Ou encore d'aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose, on digresse un peu, mais pas vraiment. Il y a des corporations qui ont très bien compris que la chose à faire est non pas de sembler être les gros méchants qui tapent sur les petits, comme Barry Gold maintenant, mais d'occuper la place publique avec les moyens qu'ils ont. Je suis directeur d'un centre de recherche en éthique, ce qui fait que très régulièrement, à tous les mois, je reçois des rapports des grandes corporations du monde, Shell, pour ne pas la nommer, et d'autres, leur rapport éthique essentiellement. Hein, voici ce que nous faisons pour sauver la planète. Avec des moyens, ce sont des documents qui sont très impressionnants sur le plan de la mise en page.
C'est
très beau, c'est diffusé. Si j'en reçois, vous pouvez penser qu'il y en a beaucoup d'autres qui les reçoivent gratuitement, évidemment. C'est très impressionnant, ça a l'air extrêmement bien documenté et évidemment, là, il y a un moyen d'occuper la place publique avec des moyens que n'ont pas Shell versus Éco-Société, ça ne fait pas le poids. Alors là, il y a un autre problème. Hein. Que fait-on lorsque les corporations apprennent que la stratégie vaguement mafiosi qui consiste à taper sur le petit, ça ne fait pas bien, les gens se disent « mon Dieu, ils doivent avoir raison, ces gens-là, pour qu'ils aient autant peur d'eux ». On ne va plus utiliser cette stratégie-là. On va écouter Christian Nadeau, Pierre Noreau et tout le monde. Occupons la place publique pour débattre, mais faisons-le avec les moyens que nous avons qui vont faire que notre message va être entendu haut et fort, alors que ceux de nos opposants ne seront entendus qu'à hauteur de ce qui est rendu possible par le pouvoir de diffusion de petites maisons d'édition assez courageuses, mais pas hyper puissantes, comme Éco-Société. Alors ça, c'est un autre problème dont il faut tenir compte, qui fait partie de toute cette problématique.
I've been walking for hours, needed a rest. Take a good look around, nowhere to rest.
Si jamais on parvenait à faire adopter une loi de ce type-là, ça n'empêcherait sans doute pas les sociétés commerciales d'utiliser d'autres moyens de venir censurer l'opinion publique ou la possibilité d'exprimer un point de vue dissident ou un désaccord sur quoi que ce soit ou un appui à quelqu'un qui est dissident pour quelque chose. Et ça, il faut être lucide par rapport à ça. Le droit n'est pas le fin mot de la société. Le recours au système judiciaire n'est pas la seule arène politique qui existe, même si on en a fait tranquillement une arène politique. Et si jamais on réussit à la neutraliser, ça ne veut pas dire que ce débat-là n'existerait pas ailleurs. Je pense que c'est une obligation continue de toujours être vigilant par rapport à la possibilité qu'il y ait des poids et des contrepoids. C'est au fondement de la logique démocratique. Et puis ça, c'est pas le fait d'avoir une loi anti-slap ou pas qui réglera cette question-là. C'est une obligation continue, cette vigilance-là. Même si un jour, peut-être, une loi permettra qu'au moins la reine judiciaire ne soit pas constamment détournée pour d'autres fins que celles auxquelles elle est destinée.
Donc, merci beaucoup sur cet appel à la vigilance. On va demander à nos auditeurs de continuer à être vigilants et de revenir pour la prochaine émission de Radio Créole. Merci.
Merci. Au revoir.
As the autumn weather turns leaf to flame, I haven't got time for the waiting game, and it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. ¶¶
What?